Vous écoutez, on lit pour vous.
Les impacts environnementaux méconnus du plein air, un texte de Chloé Bourquin, paru le 11 octobre 2024 dans la presse. Il existe des impacts environnementaux auxquels on ne pense pas toujours lorsqu'on part camper. Ramasser ses déchets, ne pas marcher en dehors des sentiers, ne pas nourrir les animaux sauvages, bien éteindre son feu, ces bonnes pratiques font partie des 7 principes de Sans Trace Canada, un organisme sans but lucratif consacré à la promotion de l'éthique du plein air. Mais il existe également des impacts environnementaux auxquels on ne pense pas toujours lorsque l'on part camper. En voici 3. Le plus gros impact environnemental du plein air, c'est surtout le transport vers le lieu où l'on se rend, soutient Valérie Bélanger, porte-parole de l'Association Aventure Écotourisme Québec. Un avis partagé par Danielle Landry, fondatrice de l'organisme De Ville en Forêt. Ce qu'on nous vend comme image du plein air, dit-elle, ce sont des destinations lointaines. Et c'est aussi souvent pour transporter ces équipements de plein air qu'on justifie le fait d'avoir un gros véhicule. Selon elle, il pourrait être intéressant d'envisager un rapprochement des destinations pour éviter les longs trajets. Autres options possibles: favoriser le covoiturage entre amis plutôt que de se déplacer chacun avec sa voiture et louer un plus gros véhicule de temps en temps pour des besoins ponctuels. On peut aussi regarder les chemins de randonnée qui sont à quelques kilomètres de chez soi, où l'on pourrait se rendre à vélo, par exemple, explique Valérie Bélanger. Toutes deux indiquent qu'il existe des navettes, comme celle de Navette Nature, qui relie de grands centres urbains aux parcs naturels afin de permettre aux gens qui n'ont pas de véhicule de profiter du plein air. Ces systèmes ne sont pas suffisamment développés pour être une solution compétitive pouvant remplacer la voiture individuelle, déplore toutefois Danielle Landry. Le plein air est essentiel pour notre équilibre, soutient-elle. Il faut penser plus large que la responsabilité individuelle en offrant la possibilité aux gens de fréquenter les parcs naturels sans avoir recours à la voiture. Les polluants éternels sont, dans les mousses anti-incendie, les cosmétiques, les poils à frire et jusque dans le papier toilette. Les PFAS, ces fameux polluants éternels, font partie intégrante de notre quotidien. Mais surtout, leurs propriétés hydrofuges en font des substances de choix dans la confection d'équipements de plein air, vestes de pluie, tentes, sacs de couchage, chaussures. Lorsque l'on apporte ces équipements en pleine nature, ils peuvent relâcher ces substances toxiques qui s'accumulent dans l'environnement. Une étude de Greenpeace a révélé, en 2016, que parmi une quarantaine d'articles de plein air analysés, 90% contenaient des PFAS. Un an plus tôt, l'organisme avait mené des analyses de neige et d'eau dans 8 régions montagneuses difficilement accessibles et tous les échantillons prélevés étaient positifs au PFAS. Depuis, des marques comme Patagonia ou Gore, laquelle commercialise des équipements en Gore-Tex, ont promis d'éliminer certains PFAS de leurs produits d'ici fin 2025. Des marques proposent également des gammes garanties sans polluants éternels. Autre problème que soulèvent les équipements de plein air, mais c'est aussi pour cela qu'on les achète, leur durabilité. Une veste de pluie égarée dans la nature mettra des siècles à se dégrader. De même, ces équipements sont faits à partir de fibres synthétiques et souvent achetés neufs. Dès leurs premières utilisations, ils relâchent dans l'environnement des microplastiques. Que ce soit pour les microplastiques ou pour les PFAS, on peut difficilement quantifier l'impact des tentes ou des vestes de pluie des campeurs sur l'ensemble de l'écosystème d'un parc naturel, par exemple, comparativement à d'autres sources de contamination. Mais pour Daniel Landry, une chose est sûre, il faut réduire à la source. Une solution pourrait être d'acheter des équipements de seconde main, de les louer ou de les emprunter avant d'aller camper. Parce que c'est lors des premières utilisations et des premiers lavages qu'un tissu relâche le plus de fibres synthétiques. Certaines entreprises proposant des activités de plein air ont amorcé un tournant dans ce sens, explique Valérie Bélanger. Ces entreprises achètent de l'équipement de seconde main plutôt que neuf. Des marques comme Arc'teryx proposent également de leur renvoyer des produits usés ou détériorés pour les réparer afin d'allonger leur durée de vie. Mais pour Daniel Landry, le problème demeure. Le marketing pousse encore les adeptes du plein air à acheter du matériel neuf et en grande quantité. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce qu'on estime avoir besoin pour faire du plein air, soupire-t-elle. C'était « Les impacts environnementaux méconnus du plein air », un texte de Chloé Bourquin, paru le 11 octobre 2024 dans La Presse.
Les rouis norandiens connaissaient les effets sur la santé de la fonderie, selon Québec. Un texte d'Annie-Claude Luneau, paru le 22 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement du Québec tentera de faire rejeter la demande d'autorisation d'une action collective dans le dossier de la fonderie Horn. Les audiences doivent reprendre cette semaine, les 26 et 27 septembre, au Palais de justice de Rouyn-Noranda. Le procureur général du Québec et Glencore sont visés par une demande d'action collective. Des citoyens de Rouyn-Noranda souhaitent obtenir des dommages-intérêts de la fonderie Horn et du gouvernement du Québec en raison de préjudices subis par l'émission des contaminants dans l'air. Des informations publiques dès les années 1990. Dans ce type de démarche judiciaire, les demandeurs ont 3 ans à partir de l'apparition des dommages ou de la connaissance des dommages pour intenter une action collective. Les demandeurs établissent ce moment à juin 2022. Ce n'est qu'à l'été 2022, alors que le sujet occupait énormément d'espace médiatique, que les membres du groupe ont pu commencer à prendre la pleine mesure de l'atteinte subie et de leur exposition aux différents contaminants toxiques et cancérigènes émis par la fonderie Horn, ainsi que leur risque d'être atteint d'un cancer ou d'autres maladies en lien avec cette exposition. Peut-on lire dans la demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une action collective déposée par Julie Fortier et Miguel Charlebois au nom des citoyens de Rouyn-Noranda en octobre 2023? Or, le procureur général du Québec estime plutôt que toute personne raisonnable, membre du groupe et manifestement informée depuis plusieurs décennies de la nature et des effets potentiels des contaminants émis légalement par la fonderie, tel que stipulé dans une requête qui sera débattue devant le tribunal cette semaine. Le procureur général du Québec, PGQ, tentera de déposer en preuve une série de documents qui, selon lui, prouvent que les résidents du quartier Notre-Dame, près de la fonderie, connaissaient les risques pour la santé depuis plusieurs années. Le rapport le plus ancien que le défendeur souhaite déposer en preuve est une étude sur la contamination par le plomb dans le quartier Notre-Dame en 1991, qui a été présentée lors d'une assemblée publique. En 1999, 1500 exemplaires d'un feuillet intitulé « Le plomb et la santé de vos enfants » avaient été distribués aux résidents du quartier. D'autres rencontres publiques ont eu lieu au cours des années 2000. Puis, en janvier 2005, la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, DSPAT, a publié un document de questions-réponses sur l'arsenic. Le PGQ souhaite aussi déposer en preuve les 24 éditions du bulletin Info Quartier ND, publié de 2003 à 2018. Médiatisation au printemps 2019. Le rôle des médias est aussi au cœur de l'argumentaire du gouvernement du Québec. Selon les documents judiciaires, la médiatisation des enjeux présentés par les demandeurs s'intensifie dès le mois de mai 2019 avec la publication de plusieurs articles sur l'étude de biosurveillance menée sur les enfants du quartier Notre-Dame et des détails entourant l'autorisation ministérielle de la fonderie Horn. Le PGQ souhaite donc que le tribunal admette en preuve une revue de presse sommaire qui révèle qu'une partie importante de la cause d'action des membres a pris naissance bien avant le 22 octobre 2020. Lit-on dans la requête, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la demande d'action collective. Le procureur général du Québec demande aussi au tribunal d'autoriser un interrogatoire hors cours des demandeurs pour savoir s'ils ont signé une pétition déposée par Émilise Lessard-Terrien, alors députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, à l'Assemblée nationale en février 2020, intitulée « Réduire les émissions d'arsenic et faire une étude sur la santé de la population de Rouyn-Noranda ». Le juge de la Cour supérieure du Québec, qui entendra la demande d'autorisation d'une action collective, pourrait rendre lui-même une décision sur le délai de prescription ou encore laisser le soin au juge qui écoutera le fond de l'affaire de statuer sur cette question. Glencore minimise les effets sur la santé. La multinationale Glencore, propriétaire de la fonderie Horn, souhaite aussi déposer une dizaine de documents en preuve, notamment des fiches produites par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, CI3SAT, sur l'état de santé de la population de Rouyn-Noranda. Cette preuve est essentielle pour que Glencore puisse démontrer lors du débat sur l'autorisation que les allégations des demandeurs ne permettent pas de soutenir l'existence d'une crainte objective parmi les membres du groupe, soutient Glencore dans sa requête. Glencore critique aussi le rapport de l'Institut national de santé publique, INSPQ, qui révélait que, si les émissions toxiques de la fonderie Horn se poursuivaient, il pourrait y avoir de 13 à 550 cas de plus de cancer du poumon par million d'habitants, alors que le risque considéré comme étant négligeable au Québec est de 1 cas par million d'habitants. L'évaluation du risque repose sur la prémisse d'une exposition à l'air ambiant à l'extérieur en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par année, pendant une période de 70 ans, ce qui ne reflète pas la réalité et surestime grandement l'exposition, selon l'entreprise, qui cite la déclaration de la toxicologue Janet Anderson, qui a été mandatée par Glencore pour analyser le rapport. Finalement, le défendeur souhaite démontrer à la Cour que les concentrations de contaminants ne sont pas uniformes dans toute la ville. Elle veut déposer en preuve sa fiche technique sur la moyenne annuelle des contaminants en 2023. La fiche technique jette un éclairage sur les écarts significatifs des mesures de contaminants dans l'air ambiant selon la localisation de la station d'échantillonnage, soutient Glencore dans sa requête. C'était « Les Rouyn-Norandiens connaissaient les effets sur la santé de la fonderie, selon Québec », un texte d'Annie-Claude Luneau, paru le 22 septembre 2024 sur « Ici, Abitibi-Témiscamingue ».
Héros de notre histoire, Yves Hébert Sauvageau. Un texte de Serge Fizette, paru le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Le premier voit le jour le 17 mai 1946. Le second s'enlève la vie prématurément à l'âge de 24 ans. « Je me suis tué pour me retrouver », confiera-t-il. Son nom à la naissance, Yves Hébert. Son pseudonyme, Yves Sauvageau. C'est le choc dans la communauté artistique, la consternation. Comédien et dramaturge, qualifié de génie du théâtre, il est resté dans les mémoires de certains comme un auteur avant-gardiste plein de promesses, mais qui ne s'est pas donné le temps d'épanouir son talent. Originaire de Waterloo, l'adolescent s'occupe alors de loisirs théâtrales dans sa ville et, à 16 ans seulement, fonde la troupe de théâtre La Lanterne. Après un passage à l'école normale de l'Université de Sherbrooke, il s'oriente vers le théâtre et remporte, en 1965, les premiers et troisièmes prix du concours des jeunes auteurs de Radio-Canada. À la fin de ses études en interprétation à l'École nationale de théâtre du Canada, il partira en tournée avec les jeunes comédiens du TNM. L'année suivante, il fera partie du théâtre d'aujourd'hui en tant que comédien et scripteur, et jouera notamment dans « Si Aurore m'était compté deux fois » de Jean-Claude Germain. Ce dernier dira d'ailleurs de lui qu'il n'a pas eu le temps d'acquérir ni le métier ni le talent du génie dramatique qui l'habitait et dont on retrouve un peu partout dans ses œuvres la trace, l'empreinte et le souffle. Parmi ses œuvres, justement, retenons « Papa » sur le thème de la rencontre d'un père et d'un fils, et surtout « Wouf Wouf » qui, pour plusieurs, marque un tournant dans la dramaturgie québécoise. En 1969, on en donne une lecture publique à la Bibliothèque Saint-Sulpice. C'est un triomphe. Cette pièce, précise l'auteur, ce n'est qu'une suite de boules qui frappent. Je ne m'adresse pas à l'intelligence du public. Je veux susciter des émotions chez lui. Il n'y a pas d'autre moyen que de le hurler, ce texte. Avec sa centaine de personnages évoluant sur scène durant plusieurs heures, c'est une machinerie revue, lyrique et proliférante. Tout y passe. Argent, travail, alcool, mass-média, homosexualité, drogue, famille, amour, religion, automatisme, politique, etc. Mais c'est surtout le grand affrontement entre les impératifs de la société de consommation et le désir d'amour et de création d'un jeune poète. Ce poète excessif, hypersensible et endeuillé par la mort de sa mère survenue quelques mois plus tôt, finira par se suicider le 12 octobre 1970. Le jour de l'Action de grâce, mais aussi le jour même où l'armée entrait à Montréal lors des mesures de guerre. « C'est dur », souligne le metteur en scène Christian Lapointe, de ne pas faire le parallèle entre la disparition de ce jeune talentueux, qui était voué à être un grand acteur, et notre société qui s'avorte elle-même constamment, malgré son potentiel créatif. Dans les décennies qui vont suivre, de multiples hommages lui seront rendus. En 1981, à Waterloo, la compagnie de théâtre Sauvageau est cofondée par l'artiste multidisciplinaire Yves Roy, partenaire et amant du disparu, avec la double mission de permettre aux personnes intéressées par les arts de la scène d'exprimer leur créativité et d'offrir du théâtre de qualité et à un prix accessible aux gens de la région. En 1983, le théâtre Entre Chiens et Loups crée le prix Yves Sauvageau. Aujourd'hui géré par l'Association des auteurs des cantons de l'Est, il vise à encourager les auteurs de l'Estrie à écrire des œuvres pour le théâtre. En 2016, le Centre du théâtre d'aujourd'hui et le Théâtre Blanc présentent la création Sauvageau Sauvageau, d'après l'œuvre d'Yves Sauvageau, adaptée et mise en scène par Christian Lapointe. À partir des textes de fiction qu'il a écrits, l'œuvre se veut un hommage à cet artiste de la démesure, génie tourmenté et homme de théâtre avant-gardiste par le biais d'un dialogue entre l'auteur de 24 ans à la veille de se donner la mort dans les années 70 et l'auteur à l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Rappelons enfin que Raymond-Louis Lacaire a intitulé sa thèse de maîtrise en études françaises « Activités théâtrales en Estrie et à Montréal » à travers Yves Hébert Sauvageau, comédien et écrivain. « J'aurais voulu être grand », disait Yves Sauvageau. « Le temps m'a manqué. Tout va si vite aujourd'hui. J'aurais voulu vivre. Le temps m'a manqué. » C'était « Héros de notre histoire », Yves Hébert Sauvageau, un texte de Serge Fizette, paru le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Déclin alarmant de plusieurs espèces d'oiseaux au Canada. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. Des dizaines d'espèces d'oiseaux subissent un déclin alarmant de leur population en raison de la destruction de leurs habitats et des répercussions de la crise climatique, prévient un nouveau rapport scientifique publié mardi le 8 octobre 2024 par le gouvernement fédéral. Les données contenues dans le document « L'état des populations d'oiseaux du Canada » donne la mesure des menaces qui pèsent sur la diversité de la faune aviaire qu'on peut observer au pays. Pas moins de 168 espèces, soit 36 % des espèces d'oiseaux au Canada, ont subi des reculs au cours des dernières décennies. Un constat qualifié d'alarmant par les experts qui signent ce rapport produit par Oiseaux Canada et Environnement et Changement climatique Canada. Une crise fait rage dans les prairies. Le nombre d'oiseaux de prairie a diminué de 67 % depuis 1970 et rien ne laisse présager que la situation se stabilisera, souligne le document, en pointant la destruction et la dégradation des prairies naturelles. Chez les limicoles, des oiseaux qui fréquentent notamment les milieux humides et les milieux marins, le déclin marqué des populations se poursuit. 42 % depuis 1970. Les insectivores aériens, qui se nourrissent d'insectes capturés en vol, ont perdu 43 % de leur population. Récemment, la tendance s'est stabilisée. Bien que ce soit un signe d'espoir, les populations sont aujourd'hui bien plus faibles qu'elles ne l'étaient auparavant. Le déclin des populations d'insectes est probablement à l'origine de cette perte. Et l'inversion de cette tendance permettra de sauver des oiseaux menacés, comme l'hirondelle de rivage et le martinet ramoneur, expliquent les experts dans le rapport. Pour le moment, la situation de plusieurs continue toutefois de se détériorer. C'est le cas par exemple de l'hirondelle de rivage, qui est inscrite comme espèce menacée en vertu de la loi sur les espèces en péril du Canada. Mais malgré une chute de l'ordre de 99 % de sa population au Québec, elle ne figure pas sur la liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement québécois. Les migrateurs de longue distance, qui passent l'hiver dans les régions tropicales, comme plusieurs espèces de parulines, ont perdu 29 % de leurs effectifs. La perte d'habitat les menace à toutes les étapes de leur cycle annuel et leur long voyage les expose à des risques supplémentaires. La coopération internationale est essentielle à la conservation d'espèces comme la paruline rayée et la grive des bois, qu'on retrouve notamment au Québec. En plus des 168 espèces qui ont assurément subi un déclin, le rapport fait état de 98 espèces qui ont connu peu de changements d'effectifs, comme les bruants ou les viréaux, et 54 pour lesquels les données sont insuffisantes pour déterminer une tendance. C'est le cas pour certains oiseaux qui vivent dans les vastes milieux marins du pays. Les populations d'oiseaux marins du Canada semblent avoir peu changé depuis 1970, mais au cours des dernières décennies, la tendance est à la baisse. C'est inquiétant. Car à l'échelle mondiale, de nombreux oiseaux marins sont en difficulté, indique le rapport. La situation des espèces dont l'habitat se situe en région arctique demeure par ailleurs en bonne partie méconnue, mais les données scientifiques disponibles indiquent une baisse qui pourrait bien présager des impacts de la crise climatique sur cet écosystème particulièrement sensible au réchauffement. À l'opposé, 143 espèces ont connu une hausse, sur les 463 qui ont été évaluées par les experts. C'est le cas notamment chez les rapaces et la sauvagine, qui regroupent les canards, les oies et les bernaches. Directeur de l'organisme Québec Oiseau, Jean-Sébastien Guénette n'est pas surpris des données publiées qui s'inscrivent dans une tendance lourde observée depuis déjà plusieurs années, notamment au Québec, dans le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Certaines espèces qualifiées de champêtres ont subi des déclins importants en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation de l'agriculture au Québec, qui s'est tournée davantage vers la monoculture, rappelle M. Guénette. L'exemple de l'alouette Hausse-Col est particulièrement éloquent. Autrefois très commun dans nos campagnes, cet oiseau a accusé un recul sévère depuis une trentaine d'années, avec une chute de plus de 75% des effectifs depuis 1990. Plusieurs menaces. Outre la destruction de milieux naturels comme les forêts, les bouleversements climatiques constituent une menace importante et croissante pour les oiseaux du Canada, constate le rapport, qui mentionne la hausse des épisodes météorologiques extrêmes qui mettent les oiseaux en péril, tempêtes, inondations, sécheresses et incendies de forêt. Par ailleurs, les chats domestiques à l'extérieur et les chats errants tuent plus de 100 millions d'oiseaux chaque année au Canada, ce qui représente également une menace directe pour plusieurs espèces. Et selon les estimations disponibles et citées dans le rapport, les collisions avec des fenêtres tuent en moyenne plus de 25 millions d'oiseaux au Canada chaque année, surtout au passage de nombreuses espèces dans les zones urbaines et suburbaines pendant les migrations. Des millions d'oiseaux sont également tués chaque année dans des collisions avec des véhicules et des lignes électriques. Jean-Sébastien Guénette déplore d'ailleurs l'absence de financement de la part des gouvernements, par exemple pour sensibiliser les propriétaires de chats à la menace que représentent leurs félins domestiques, mais aussi pour mettre en place des mesures pour réduire les collisions avec les fenêtres. Selon lui, de telles mesures permettraient de réduire substantiellement l'impact de l'activité humaine pour la faune aviaire. Les contaminants et les déchets affectent en outre les oiseaux dans tous les environnements. Les pesticides et d'autres contaminants d'origine agricole et industrielle menacent tant les oiseaux que leurs habitats. De plus, l'ingestion de plastique est une cause de mortalité, en particulier d'oiseaux marins, constatent les scientifiques depuis déjà plusieurs années. C'était « Déclin alarmant de plusieurs espèces d'oiseaux au Canada », un texte d'Alexandre Shields, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.